Jules Verne, César Cascabel, première partie, chapitre 13. Une idée de Cornelia Cascabel. C'était sur la rive droite du fleuve que la belle roulotte avait fait cette partie du voyage comprise entre le fort Selkirk et le fort Yukon. Elle s'en était tenue à une distance variable afin d'éviter les détours auxquels l'eût obligé le cours d'eau, entaillé par des coupures nombreuses et dont les abords forment parfois d'impraticables lagunes. Du moins en est-il ainsi de ce côté, car à gauche, quelques collines de médiocre hauteur encadre la vallée en se prolongeant vers le nord-ouest. Peut-être eût-il été malaisé de franchir certains petits affluents du Yukon, entre autres le Stewart, qui n'est point desservi par un bac, si, pendant la saison chaude, il n'eût été possible de les passer à gué, avec de l'eau à mi-jambe seulement. Et encore, M. Cascabel et les siens eussent-ils été fort embarrassés sans la présence de Cayette. Connaissant bien cette vallée, elle put leur indiquer les passages. C'était vraiment une bonne chance d'avoir cette jeune indienne pour guide. D'ailleurs, elle était si heureuse d'obliger ses nouveaux amis, si contente de se trouver au milieu d'une nouvelle famille, si touchée de recevoir encore ces maternelles caresses dont elle se croyait à jamais privée. Le pays avait encore des bois à sa partie centrale, que de petites tumescences accidentaient çà et là, mais ce n'était déjà plus l'aspect des environs de Sitka. En effet, la rigueur d'un climat soumis à 8 mois d'un hiver arctique ne permet guère à la végétation de se développer. Aussi, les essences appropriées à ces régions n'appartiennent-elles, à part quelques peupliers dont la cime se courbe en arc, qu'à la famille des pins et des bouleaux. Puis, ce sont de rares bouquets de ces tristes saules, grêles et décolorés, que dépouillent promptement les aigres brises venues de la mer glaciale. Pendant le trajet du fort de Selkirk au fort Yukon, la chasse ayant été assez productive, il n'avait pas été nécessaire de toucher aux réserves pour l'alimentation quotidienne. Des lièvres tant qu'on en voulait, et peut-être à part soi, les convives commençaient-ils à s'en fatiguer. À la vérité, on avait pu varier l'ordinaire avec des rôtis d'oies et de canards sauvages, sans compter les œufs de ces volatiles que Cendre et Napoléon dénichaient adroitement dans leurs trous. Et Cornelia possédait tant de manières d'apprêter les œufs, elle en tirait même vanité, que c'était toujours un nouveau régal. « Voilà certainement un pays où il fait bon vivre !» s'écria un jour Clou de Girofle, en achevant de ronger une énorme carcasse d'oie. « Il est fâcheux qu'il ne soit pas situé au centre de l'Europe ou de l'Amérique !»« Étant situé au centre des pays habités, » répondit Monsieur Serge, « il est probable que le gibier y serait plus rare. » « À moins que... » répliqua Clou. Un regard de son patron le fit taire et lui épargna la sottise qu'il allait certainement dire. Si la plaine était giboyeuse, il faut aussi noter que les creeks, les rios, tributaires du Yukon, fournissaient d'excellents poissons que Cendre et Clou prenaient à la ligne, et surtout des brochets magnifiques. Ils n'avaient que la peine, ou plutôt le plaisir, de se livrer à leur goût pour la pêche, sans jamais avoir à dépenser ni un sou, ni un cent. Mais la dépense n'inquiétait guère le jeune Cendre. Est-ce que l'avenir des Cascabel n'était pas assuré, grâce à lui? Est-ce qu'il ne possédait pas sa fameuse pépite? Est-ce qu'il n'avait pas caché en un coin de la voiture que lui seul connaissait ce précieux caillou trouvé dans la vallée du Caribou? Oui, et jusqu'ici le gamin avait été assez maître de lui pour n'en rien dire, attendant patiemment le jour où il pourrait transformer sa pépite en belle pièce d'or. Alors quelle joie ce serait de faire étalage de sa richesse, non pas, grand Dieu, qu'il eût cette égoïste pensée de la garder pour son compte. C'était son père, c'était sa mère auquel il la destinait, et voilà une fortune qui réparerait largement le vol commis dans les passes de la Sierra Nevada. Lorsque la belle roulotte atteignit le fort Yukon, après une série de journées très chaudes, tous ses hôtes étaient véritablement fatigués. Il fut donc décidé que la halte durerait une semaine entière en cet endroit. Vous le pouvez d'autant mieux, fit observer M. Serge, que le fort n'est pas à plus de 200 lieues de Port Clarence. Or, aujourd'hui, nous ne sommes qu'au 27 juillet, et ce n'est pas avant 2 mois, 3 mois peut-être, qu'il sera possible de traverser le détroit sur la glace.
Entendu, répondit M. Cascabel.
Et puisque nous avons le temps, halte!
Cette décision fut reçue avec autant de satisfaction par le personnel à 2 pieds que par le personnel à 4 pattes de la belle roulotte. À l'année 1847 déjà remonte la fondation primitive du fort Yukon. Ce poste, le plus éloigné dans l'ouest de tous ceux que possède la compagnie de la baie d'Hudson, est situé presque sur la limite du cercle polaire. Mais comme il se trouve en territoire alaskien, cette compagnie est obligée de payer une indemnité annuelle à sa rivale, la compagnie russe-américaine. Ce n'est qu'en 1864 que furent commencées les bâtisses actuelles qui sont entourées d'une palissade, et elles venaient d'être seulement achevées lorsque la famille Cascabel arriva au Fort Yukon avec l'intention d'y séjourner quelques jours. Les agents lui offrirent très volontiers l'hospitalité dans l'enceinte du fort. La place ne manquait ni dans les cours ni sous les hangars. Cependant, M. Cascabel les remercia en quelques phrases pompeuses et fort obligeantes. Il préférait ne point quitter sa confortable belle roulotte. Somme toute, si la garnison du fort ne comprenait qu'une 20aine d'agents, américains pour la plupart, avec quelques indiens à leur service, les indigènes se comptaient par centaines aux abords du Yukon. C'est là, en effet, sur un point central de l'Alaska, où se tient le marché le plus suivi pour le trafic des pelleteries et les fourrures. Là s'agglomèrent les tribus diverses de la province, les Kotchakuchin, les Ankuchin, les Tatanchok, les Tananas, et principalement ces Indiens qui composent la peuplade la plus importante de la contrée, les Koyukons, limitrophes du grand fleuve. On le voit, la situation du fort est très avantageuse pour l'échange des marchandises, puisqu'il s'élève dans l'angle que forme le Yukon, au confluent de la Porcupine. Là, le fleuve se subdivise en 5 canaux, qui permettent aux trafiquants de pénétrer plus facilement à l'intérieur du territoire et de commercer même avec les Esquimaux par le cours du Mackenzie. Aussi, ce réseau liquide est-il sillonné d'embarcations qui le descendent ou le remontent, surtout nombre de ces baïdars, sortes de légers esquifs en peau huilée dont on graisse les coutures pour les rendre plus étanches. C'est à bord de ces fragiles bateaux que les Indiens se hasardent dans des trajets considérables, n'étant point gênés, d'ailleurs, de les transporter sur leurs épaules lorsque quelque rapide ou quelque barrage vient mettre obstacle à la navigation. Toutefois, ces embarcations ne peuvent servir que 3 mois au plus. Pendant le reste de l'année, les eaux sont emprisonnées sous une épaisse carapace glacée. Alors le baïdar change de nom et s'appelle le traîneau. Ce véhicule dont la pointe, recourbée comme une proue d'embarcation, est maintenue par des courroies en peau d'élan, étant attelée de chiens ou de rennes, se manœuvre très rapidement. Quant aux piétons, avec leurs longues raquettes aux pieds, ils se déplacent plus vite encore.
Toujours chanceux, César Cascabel. Il était arrivé fort à propos au Fort Yukon, puisque le marché des pelleteries se trouvait en pleine activité à cette époque. Aussi, plusieurs centaines d'Indiens étaient-ils campés aux environs de la factorerie.
« Du diable ! » s'écria-t-il. « Si nous n'en profitons pas, c'est une véritable foire, et n'oublions pas que nous sommes des artistes forains. N'est-ce pas là ou jamais le cas de montrer notre savoir-faire ? Vous n'y voyez aucun inconvénient, monsieur Serge ?»«
Aucun, mon ami, » répondit monsieur Serge. « Mais je doute que vous puissiez faire de bonnes recettes. »
Bah, elles couvriront toujours nos frais, puisque nous n'en avons pas. »
Rien de plus juste, répliqua M. Serge. Et pourtant, je vous demanderai de quelle façon vous espérez que ces braves indigènes paieront leur place, puisqu'ils n'ont ni monnaie américaine, ni monnaie russe.
Eh bien, ils paieront avec des pots de rat musqué, des pots de castor, enfin, comme ils pourront. En tout cas, ces représentations auront pour premier résultat de nous étirer un peu les muscles, car je crains toujours que nos articulations ne viennent à perdre de leur souplesse. Comme nous avons notre réputation à soutenir à Perm, à Nijni, je ne veux pas exposer ma troupe à un fiasco quand elle débutera sur votre terre natale. Je n'y survivrai pas, monsieur Serge. Non, je n'y survivrai pas. ».
Le fort Yukon, qui est le plus important de la région, occupe un emplacement assez vaste sur la rive droite du fleuve. C'est une sorte de quadrilatère oblong, contrebuté à chaque angle de tours carrées, ressemblant un peu à ces moulins montés sur pivots qui se rencontrent dans le nord de l'Europe. À l'intérieur s'élèvent divers bâtiments réservés au logement des employés de la compagnie et de leurs familles. Puis de larges hangars fermés, où les peaux et les fourrures forment un stock considérable, des martres, des castors, des renards noirs ou gris argent, sans compter les produits de moindre valeur. Vie monotone, pénible aussi, que mènent ces employés. Quelquefois de la chair de renne, mais le plus ordinairement de l'élan grillé, bouilli, rôti, c'est là toute leur alimentation. Quant aux denrées d'autres sortes, il faut les faire venir de la factorerie d'York, dans la région de la baie d'Hudson, c'est-à-dire de 600 ou 700 lieues, et il s'ensuit que les arrivages sont rares. Dans l'après-midi, une fois leur campement installé, M. Cascabel et sa famille allèrent visiter les indigènes établis entre les rives du Yukon et de la Porcupine. Quelle diversité dans ces habitations provisoires, suivant la tribu à laquelle elles appartenaient. Huttes d'écorce et de peau, soutenues sur des pieux et recouvertes d'une ramure de feuillage, tentes faites avec ce coutil de coton qui est de fabrication indienne, baraques de planches qui se montent et se démontent selon les besoins du moment. Et aussi, quel amusant bariolage de costumes! Aux uns des vêtements de peau, aux autres des vêtements de cotonnade, tous ayant la tête enguirlandée de feuillage pour se préserver contre les morsures des moustiques. Les femmes, vêtues d'une jupe carrée par le bas, ont le visage orné de coquilles. Quant aux hommes, ils portent des épinglettes qui servent, pendant l'hiver, à rattacher leur longue robe de peau d'élan, dont la fourrure est à l'intérieur. Au surplus, les deux sexes font étalage de franges de perles fausses, qui sont uniquement appréciées pour leur grosseur. Parmi ces diverses tribus se distinguent les ananas, reconnaissables à leurs visages peints de couleurs éclatantes, aux plumes de leurs coiffures, à leurs aigrettes enfilées de morceaux d'argile rouge, à leurs vestes de cuir, leurs pantalons de peau de renne, leurs longs fusils à pierre et leurs poires à poudre sculptées avec une extrême délicatesse. En fait de monnaie, ces Indiens se servent de coquilles de dentalium que l'on retrouve jusque chez les indigènes de l'archipel de Vancouver. Ils les suspendent au cartilage de leur nez et les en retirent lorsqu'ils veulent payer quelque acquisition. « Voilà un porte-monnaie économique, » dit Cornelia, « et on est sûr de ne point le perdre. » « À moins que le nez ne tombe, » fit judicieusement observer Clou de Girofle. « Ce qui pourrait bien arriver pendant les grands froids de l'hiver, » répondit M. Cascabel. Somme toute, ce rassemblement d'indigènes offrait un curieux spectacle. On comprend que M. Cascabel était entré en relation avec plusieurs de ces Indiens, dont il comprenait quelque peu le dialecte chinook, tandis que M. Serge les interrogeait et leur répondait en langue russe. Durant plusieurs jours, il se fit un commerce très animé entre les trafiquants et les représentants de la compagnie. Mais jusqu'alors, les Cascabel n'avaient point utilisé leur talent dans une représentation publique. Néanmoins, les Indiens ne tardèrent pas à savoir que cette famille était d'origine française, que ses divers membres jouissaient d'une grande réputation comme faiseurs de tours de force et de passe-passe. Chaque soir, ils venaient en grand nombre admirer la belle roulotte. Jamais ils n'avaient vu pareille voiture, si brillamment peinturlurée. Elle leur plaisait surtout parce qu'elle pouvait se déplacer facilement, ce qui devait particulièrement intéresser les nomades. Et peut-être, dans l'avenir, ne devra-t-on pas s'étonner d'entendre parler de huttes d'Indiens montées sur roues. Après les maisons roulantes, les villages ambulants. Il va de soi que, dans ces circonstances, une représentation extraordinaire s'imposait aux nouveaux venus. Aussi fut-il décidé que cette représentation serait donnée à la demande générale des Indiens du Fort Yukon. Celui des indigènes avec lequel M. Cascabel avait lié connaissance dès les premiers jours était un Tihi, c'est-à-dire un chef de tribu. Bel homme, âgé d'une cinquantaine d'années, il paraissait fort intelligent et même très roublard. Il avait plusieurs fois visité la belle roulotte et fait comprendre combien les indigènes seraient heureux d'assister aux exercices de la famille. Ce Tihi était le plus souvent accompagné d'un Indien âgé de 30 ans nommé Firfu, qui, homme d'un type gracieux et fin, était le magicien de la tribu, un jongleur remarquable, bien connu dans toute la province du Yukon.
« C'est donc un confrère !» répondit M. Cascabel, lorsque le Tilly le lui présenta pour la première fois.
Et tous trois, après avoir bu ensemble quelques liqueurs du pays, avaient fumé la pipe de l'amitié.
Ce fut à la suite de ces entretiens, pendant lesquels le Tilly avait très vivement insisté pour que M. Cascabel donnât une représentation, que celui-ci la fixa au 3 août. Il était convenu que les Indiens lui apporteraient leur concours, étant très désireux de ne point se montrer inférieur à des Européens pour la force, l'adresse et l'agilité. Cela ne saurait étonner. Dans le Far West, comme dans la province alaskienne, les Indiens sont grands amateurs de ces divertissements de gymnique et d'acrobatie, qu'ils entremêlent de farces et mascarades auxquelles ils excellent.
Donc, à la date indiquée, lorsqu'une nombreuse assistance fut réunie, on put voir un groupe composé d'une demi-douzaine d'indigènes dont le visage était recouvert d'un large masque de bois d'une incomparable hideur. De même que pour les grosses têtes des féeries, la bouche et les yeux de ces masques étaient mis en mouvement moyen de ficelles, ce qui donnait l'illusion de la vie à ces horribles figures, pour la plupart terminées en bec d'oiseau. On imaginerait difficilement à quelle perfection de grimace ils pouvaient atteindre, et le singe John Bull aurait pu prendre là quelques bonnes leçons. Inutile d'ajouter que M. et Mme Cascabel, Jean, Cendre, Napoléon et Clou de Girofle avaient revêtu leur costume forain pour cette circonstance. Le lieu choisi était une vaste prairie, entourée d'arbres, dont la belle roulotte occupait le fond, comme dans un décor de théâtre. En avant étaient rangés les agents du fort Yukon avec leurs enfants et leurs femmes. Sur les côtés, plusieurs centaines d'Indiens et d'Indiennes formaient demi-cercle et fumaient en attendant l'heure de la représentation. Les indigènes masqués, qui devaient prendre part aux exercices, se tenaient un peu à l'écart. Le moment venu, Clou parut sur la plateforme du véhicule et fit son boniment habituel.
« Messieurs les Indiens et mesdames les Indiennes, vous allez voir ce que vous allez voir !»
etc., etc.
Mais, comme il ne parlait pas le langage chinook, il est infiniment probable que ces tirades fantaisistes ne furent point goûtées des spectateurs. Toutefois, ce que l'on comprit, ce furent les taloches traditionnelles que lui administra libéralement son patron et les coups de pied à l'endroit convenu dont il reçut son contingent habituel avec la résignation d'un pitre engagé pour cet emploi. Puis, quand ce prologue eut pris fin,
« Maintenant, au tour des bêtes !» dit M. Cascabel, après avoir salué l'assistance.
Les chiens Wagram et Marengo furent amenés sur l'espace réservé devant la belle roulotte, et ils émerveillèrent les indigènes, peu habitués à ces exercices qui mettent en relief l'intelligence des animaux. Puis, lorsque John Bull vint exécuter ses tours de voltige sur le dos de l'épagneul et du caniche, il le fit avec une telle souplesse et de si drôlatiques attitudes qu'il dérida la gravité indienne. Et pendant ce temps, Cendre ne cessait de jouer du cornet à plein poumon, Cornelia du tambour, Clou de la grosse caisse. Si, après cela, les Alaskiens n'étaient pas édifiés sur le puissant effet que l'on peut tirer d'un orchestre européen, ce qu'il manquait de sens artistique. Jusqu'alors, le groupe masqué n'avait pas fait un mouvement, ne jugeant pas évidemment que l'instant fût venu d'entrer en scène. Il se réservait.
« Mademoiselle Napoléon, danseuse de haute corde !» cria Clou à travers un porte-voix.
Et la fillette, présentée par son illustre père, fit son entrée à la vue du public. Elle dansa d'abord avec une grâce qui lui valut nombre d'applaudissements, lesquels ne se traduisirent point par des cris ou des claquements de mains, mais par de simples hochements de tête, non moins significatifs. Et il en fut de même lorsqu'on la vit s'élancer sur une corde tendue entre deux tréteaux, marcher, courir, voltiger avec une aisance qui fut particulièrement admirée des Indiennes.
« À mon tour !» s'écria le jeune Cendre. Et le voilà qui vient, salue en se frappant la nuque, se démène, se tortille, se disloque, se contorsionne, se dépense en déhanchement et culbute, qui fait de ses bras ses jambes et de ses jambes ses bras, tantôt lézard, tantôt grenouille, et achève cet exercice par le double saut périlleux. Cette fois encore,
il eut son succès ordinaire. Mais à peine avait-il remercié l'assistance en courbant sa tête jusqu'à ses pieds, qu'un Indien de son âge, se détachant du groupe, vint se présenter après avoir enlevé son masque. Et tout ce travail que venait d'exécuter Cendre, ce jeune indigène l'exécuta avec une souplesse d'échine, une sûreté de mouvement qui ne laissait rien à désirer dans l'art de l'acrobate. S'il était moins gracieux que le puiné des Cascabelles, il n'était pas moins étonnant. Aussi provoqua-t-il parmi les indigènes les hochements de tête les plus enthousiastes. On peut être sûr que le personnel de la belle roulotte eut le bon goût de joindre ses applaudissements à ceux du public. Mais, ne voulant pas rester en arrière, M. Cascabel fit signe à Jean de commencer ses tours de jongleur pour lesquels il le croyait sans égal. Jean sentit qu'il avait à soutenir l'honneur de la famille. Encouragé par un geste de M. Serge et par un sourire de Cayette, il prit successivement ses bouteilles, ses assiettes, ses boules, ses couteaux, ses disques, ses bâtonnets, et l'on peut dire qu'il se surpassa dans ses exercices. M. Cascabel ne put s'empêcher de jeter sur les Indiens un regard de satisfaction dans lequel on sentait comme une sorte de défi. Il semblait dire en se tournant vers le groupe masqué « Eh bien, vous autres, faites-en don autant !» Cela fut compris, sans doute, car, sur un geste du Tihi, un autre Indien, se démasquant, s'élança hors du groupe. C'était le magicien Firfu. Lui aussi avait sa réputation à soutenir en l'honneur de la race indigène. Et alors, saisissant l'un après l'autre les ustensiles dont Jean avait fait usage, le voilà qui reprend un à un les exercices de son rival, croisant les couteaux et les bouteilles, les disques et les anneaux, les boules et les bâtonnets, et cela, il faut bien l'avouer, avec une élégance d'attitude et une sûreté de mains égale à celle de Jean Cascabel. Clou, habitué à n'admirer que le patron et sa famille, était absolument interloqué, ouvrant des yeux comme des chatières et faisant des oreilles comme son chapeau. Cette fois, M. Cascabel n'applaudit que par politesse et du bout des doigts. « Matin !» murmura-t-il. « Ils vont bien, les peaux rouges. Voyez-vous cela ? Des gens sans éducation. Eh bien, nous allons leur en remontrer. » Au fond, il était très décontenancé d'avoir trouvé des concurrents là où il ne croyait trouver que des admirateurs. Et quels concurrents ? De simples indigènes de l'Alaska, autant dire des sauvages. Son amour-propre d'artiste en fut singulièrement rabattu. Que diable, on est saltimbanque ou on ne l'est pas ? « Allons, enfants !» s'écria-t-il d'une voix tonnante. « À la pyramide humaine !» Et tous se précipitèrent vers lui comme à un assaut. Il était solidement campé, les jambes écartées, les reins saillants, le torse largement développé. Sur son épaule droite, Jean s'était hissé lestement, donnant la main à Clou, debout sur son épaule gauche. À son tour, Cendre s'était placé droit sur sa tête, et, au-dessus de lui, Napoléon couronnait l'édifice, arrondissant ses deux bras pour envoyer des baisers à la foule. La pyramide française était à peine construite qu'une autre, la pyramide indigène, se dressa en face d'elle. Sans quitter ses masques, le groupe s'est disposé non plus sur 5, mais sur 7 échelons, et domine d'un étage la famille Cascabel. Pyramide contre pyramide. Et alors, cette fois, cris et hurrahs des Indiens, qui éclatent en l'honneur de leur tribu. La vieille Europe était vaincue par la jeune Amérique, et quelle Amérique ? Celle des Koyukons, des Tananas et des Tatanchok. Monsieur Cascabel, honteux et confus, n'ayant pu retenir un faux mouvement, faillit précipiter sa famille à terre. « Ah, c'est comme cela » dit-il après s'être débarrassé de son fardeau humain. « Calmez-vous, mon ami, » lui dit M. Serge, « cela ne vaut pas la peine de... »«
Pas la peine ! On voit bien que vous n'êtes pas artiste, M. Serge !»
Puis, se retournant vers sa femme,
« Allons, Cornelia, la lutte à main plate » s'écria-t-il. Nous verrons lequel de ces sauvages osera se mesurer avec la vaincresse de Chicago. »
Madame Cascabel ne bougea point.
« Eh bien, Cornelia, Non, César.
Tu ne veux pas lutter avec ces singes et relever l'honneur de la famille ?
Je le relèverai, se contenta de répondre Cornelia. Laisse-moi faire, j'ai mon idée.
Et lorsque cette femme étonnante avait une idée, mieux valait la lui laisser mettre à exécution sans la contrarier. Elle aussi n'avait pas été moins humiliée que son mari du succès des Indiens, et il était probable qu'elle leur réservait quelques tours de sa façon. En effet, Cornelia était retournée à la belle roulotte, laissant son époux inquiet, quelque confiance qu'il eut dans l'intelligence et dans l'imagination de son épouse. 2 minutes après, Madame Cascabel reparut et vint se placer en face du groupe des Indiens, qui se reforma autour d'elle. Puis, s'adressant à l'agent principal du fort, elle le pria de répéter aux indigènes ce qu'elle allait dire. Et voici ce qui fut traduit mot pour mot dans le pur langage de la province alaskienne. « Indiens et indiennes, vous avez montré, dans ces exercices de force et d'adresse, des talents qui méritent une récompense, et cette récompense, je vous la porte. » Silence général et vive attention de l'assemblée.
« Vous voyez mes mains ?» reprit Cornelia.
« Elles ont été plus d'une fois serrées par les plus augustes personnages du vieux monde. Vous voyez mes joues ? Elles ont souvent reçu les baisers des plus puissants souverains de l'Europe. Eh bien, ces mains, ces joues, elles vous appartiennent. Indiens de l'Amérique, venez les baiser, venez les prendre. »
Et ma foi, les indigènes ne songèrent point à se faire prier. Jamais ils ne retrouveraient pareille occasion d'embrasser les mains d'une aussi superbe femme. L'un d'eux, un beau Tanana, s'avança et saisit la main que lui tendait Cornelia. Quel cri lui échappa à la suite d'une secousse qui le fit se démener en 1000 contorsions.
« Ah, Cornelia !» s'écria Monsieur Cascabel. « Cornelia, je te comprends et je t'admire !»
En même temps, Monsieur Serge, Jean, Cendre, Napoléon et Clou, de rire à se tordre du bon tour que jouait aux indigènes cette femme extraordinaire.
« Un autre !» dit-elle, les bras toujours tendus vers l'assistance. « Un autre !»
Maintenant, les Indiens hésitaient, croyant à quelque phénomène surnaturel. Cependant, le Tihi se décida. Il marcha lentement vers Cornelia. Il s'arrêta à 2 pas de son imposante personne. Il la regarda d'un air qui n'était rien moins qu'assuré.
« Allons, mon vieux !» lui cria Monsieur Cascabel. « Allons, un peu de courage ! Embrasse madame ! Ce n'est pas bien difficile, et c'est agréable !»
Le Tihi, allongeant la main, se contenta de toucher le doigt de la belle européenne. Nouvelle secousse, hurlement du Tihi qui faillit tomber à la renverse, et profonde stupéfaction de tout le public. Si l'on était ainsi malmené rien que pour toucher la main d'une Madame Cascabel, que serait-ce donc si l'on s'avisait d'embrasser cette femme prodigieuse dont les joues avaient reçu les baisers des plus puissants souverains de l'Europe? Eh bien, il y eut pourtant un audacieux qui voulut s'y risquer. Ce fut le magicien Firfou. Lui devait bien se croire à l'abri de tout maléfice. Aussi vint-il se poser en face de Cornelia. Puis, ayant fait le tour, encouragé par les excitations des indigènes, il la prit dans ses bras et lui appliqua un formidable baiser en pleine figure. Cette fois, ce fut une série de culbutes qui s'ensuivit. Du coup, le jongleur venait de passer acrobate. Après 2 sauts aussi périlleux qu'involontaires, il alla retomber au milieu de son groupe ahuri. Et, pour produire cet effet sur le magicien, comme sur les autres indigènes, Cornelia n'avait eu qu'à presser le bouton d'une petite pile qu'elle portait dans sa poche. Oui, une petite pile portative qui lui servait à jouer les femmes électriques. « Ah, femme, femme !» s'écria son mari en la pressant impunément dans ses bras devant les Indiens stupéfaits. « Est-elle assez maligne ? L'est-elle assez ?»«
Aussi maligne qu'électrique !» ajouta Monsieur Serge.
En vérité, que devaient penser ces indigènes si ce n'est que cette femme surnaturelle disposait du tonnerre à sa fantaisie. Comment, rien qu'en lui touchant la main, on était foudroyé? Décidément, ce ne pouvait être que la compagne du grand esprit, qui avait daigné descendre sur la terre pour épouser en seconde noce Monsieur Cascabel.